paix. Il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures. Christelle Yesseau.
Madame, monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à cette édition. Éclat pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire élimine le Sénégal, tenant du titre, et se qualifie pour les quarts de finale. Le COCAN appelle à cet effet au fair play, avant, pendant et après les matchs. À Boaké, la Drena 2 de la ville bénéficie d'un renforcement de capacité sur la gestion administrative des centres d'alphabétisation. À l'international au Niger, 22 civils tués dans une attaque contre un village dans la région des Tillabéri. La revue des titres nous sera proposée ce matin par Aoussi Potin et on refermera cette édition avec l'invité de la rédaction, Geoffroy Julien Kouaou, juriste et politologue, interviendra sur la question du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Et la Côte d'Ivoire obtient son ticket de qualification pour les quarts de finale. Tenant du titre, le Sénégal s'est incliné face au pays hôte dans la soirée d'hier. Les Lions de la Teranga, qui avaient ouvert le score, ont été rejoints à la toute fin du temps réglementaire, un but partout, avant de craquer au tir au but 5-4 pour la Côte d'Ivoire. Un peu plus tôt ce jour, le Cap-Vert est venu à bout de la Mauritanie sur un score de 1-0 en ses huitièmes de finale. Les Requins bleus ont profité d'une erreur de la défense mauritanienne en fin de match pour obtenir un pénalty transformé par leur capitaine Ryan Mendes. Et cette journée du mardi 30 janvier nous annonce encore deux grandes rencontres. À 17h, le Mali affrontera le Burkina Faso au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et à 20h, ce sera la rencontre Maroc-Afrique du Sud au stade Laurent Pokou de San Pedro pour les derniers matchs de ses huitièmes de finale. Et pour la réussite donc de la 34e édition de la CAN organisée par la Côte d'Ivoire, le président du comité d'organisation de la CAN 2023, François-Albert Amichia, a appelé des supporters, tous pays confondus, à sortir nombreux et mobilisés derrière leurs équipes, mais dans le calme, la tolérance et le fair-play. La CAN, après tout, est synonyme de la victoire du football africain, a-t-il lancé à tous les supporters. Nous l'écoutons.
Il y aura un vainqueur, il y aura un vaincu, et je voudrais dire merci à toutes ces communautés qui vivent ici et qui se sentent véritablement intégrées. Quand on vient de Boaké, quand on vient de Daloa, quand on vient de Korogo, quand on vient de San Pedro, quand on parle de communauté, il n'y a pas de communauté ivoirienne, il n'y a pas de communauté béninoise, il n'y a pas de communauté burkinabé, il y a une communauté qui vit en Côte d'Ivoire. Et c'est cela qui fait la force de ce pays. Et quand le 11 février va arriver, il y aura forcément un vainqueur, mais il y aura également forcément un 12 février. Et le 12 février, c'est nous qui sommes là qui allons nous retrouver. Et nous allons reprendre la vie normalement. Nous allons nous côtoyer comme nous l'avons toujours fait. Mais il y aura une expérience d'un mois de renforcement de connaissances. Et c'est ce que nous devons retenir. Cette CAN, nous l'avons appelée la CAN de l'hospitalité. Mais j'aime bien ajouter CAN de l'hospitalité et de l'héritage. Parce qu'il reste toujours quelque chose d'une telle organisation. Et l'héritage que nous allons laisser aux futures générations, c'est de dire 40 ans après 84, nous avons participé à la 34e édition et voici ce que nous avons légué à nos populations. Les Africains se sont retrouvés, ils sont beaucoup plus unis, ils marchent vers une intégration plus forte, ils marchent vers une unité plus grande.
C'était François-Albert Amichia, président du COCAN, comité d'organisation de la CAN 2023, au micro de Matatouré. Appelle toujours au fair play lors de cette compétition qui est la CAN. Du côté du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, on invite également à la retenue et à la cohésion entre les peuples lors des matchs. L'organisation condamne les comportements antisportifs lors de certaines oppositions, exprime Yapi Léonce Adon, directeur des programmes et éthique thématique au CNDH, en ligne avec Matatouré.
Il faut dire que le CNDH, depuis le début de la CAN, après le dernier match de la Côte d'Ivoire, a constaté un certain nombre de violences dans les différentes régions, notamment à Yamoussoukro, à Gabou et aussi à Boaké. Vu ces violences-là, le CNDH a voulu appeler au calme et à la sérénité, appeler les Ivoiriens au fair play surtout. Plusieurs dames comme ça, au nombre de 5, ont été violentés. Il y a eu même des destructions de biens publics et de biens privés. Un saccage des bus de la SOTRA qui ont été constatés aussi dans certaines communes d'Abidjan. Le sport, c'est un monde de fierté. La Côte d'Ivoire est connue dans le monde comme un pays de paix. Et donc, comme nous-mêmes, notre slogan le dit, la CAN, c'est chez nous. Donc, la CAN, c'est chez la paix. Et donc, il est tout à fait indiqué que la paix, on continue de montrer cette image, cette belle image de la Côte d'Ivoire, qui est un pays de paix. Il est bon que le CNDH, qui est l'institution nationale chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme, la défense aussi des droits de l'homme, lance ce message-là. Et donc, il est important de préserver la paix, parce que le but ultime du travail que le CNDH fait, c'est d'avoir un pays de paix. Mmh. Un pays où règne vraiment la concorde et l'amitié.
Vous venez d'écouter Yapi Léonce Adom, directeur des programmes et éthique thématique au CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Autre sujet à présent dans cette édition. À Boaké, 33 coordonnateurs et inspecteurs de la Direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation de Boaké 2 ont vu leur capacité renforcée le week-end dernier sur le leadership et les qualités managériales d'un chef de service. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des centres d'alphabétisation, nous informe Djama Kofi Edmond, superviseur d'alphabétisation à la Drena 2 de Boaké, au micro de Joseph Assali.
Cette formation a porté sur la gestion et le management d'un chef de service dans le cadre de l'amélioration des résultats au niveau de chaque centre d'alphabétisation. Il faudrait que les conseillers d'alphabétisation sachent ce que c'est que l'administration. Tous les éléments qu'il faut pour pouvoir gérer le service. Nous avons parlé de la gestion administrative d'un centre d'alphabétisation. Les écueils de la gestion administrative, les outils ou fondements de la gestion administrative et puis nous avons rappelé quelques instruments pédagogiques pour des enseignements de qualité dans un centre d'alphabétisation. La gestion administrative et le management qui vont faire en sorte que nous aurons de bons agents, de bons chefs de service pour faire la promotion de l'alphabétisation dans notre zone. La bonne gestion du service va leur permettre d'avoir aussi de bons résultats à travers leur esprit managérial, d'avoir de bons résultats dans les centres d'alphabétisation tout en formant les promoteurs, les animateurs et les coachés de sorte à intéresser les apprenants à s'adonner aux activités d'alphabétisation. En mettant en pratique des enseignements sur le terrain, ils seront de bons chefs de service et on aura de bons résultats dans nos centres d'alphabétisation. Le chef de service est toujours en rapport avec ses collaborateurs. Il les aide, il les forme. Au plan social aussi, il les aide à résoudre un certain nombre de problèmes. Et c'est ce qui fait le bon chef de service.
À l'instant, Djama Kofi Edmond, superviseur d'alphabétisation à la Drena 2 de Boaké. À quelques kilomètres de là, à Daoukro, le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, le PIDAC, dans le bassin du fleuve Niger, a procédé à un renforcement des capacités des groupements pépiniéristes à travers la remise de tricycles à l'association Kouviessou de la localité. Ces engins sont destinés à faciliter le transport des plants jusqu'aux parcelles de reboisement, contribuant ainsi à l'amélioration de la couverture forestière de la région. On en fait le point avec François Cras.
En remettant les engins aux bénéficiaires, Oya Marie-Thérèse, directrice régionale des eaux et forêts de Daoukro, a donné plus d'explications sur le dit programme.
Il est important de rappeler ici que le ministère des eaux et forêts, qui conduit la politique du gouvernement en matière de gestion des ressources naturelles, a pour but de restaurer la forêt ivoirienne, qui actuellement est à 2,97 millions d'hectares. Or, nous devons œuvrer pour remettre ce couvert forestier à plus de 6,5 millions d'hectares d'ici 2030, soit 20% du territoire national. Donc plusieurs projets sont mis en œuvre à cet effet. C'est donc dans cette optique que le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger PIDAC BN s'est fixé un objectif de réaliser près de 14 000 hectares de reboisement.
Et d'ajouter,
ce programme a débuté en 2021 avec diverses activités sur le terrain, notamment le financement des sous-projets au profit des communautés locales, des groupements de jeunes et de femmes. En fait, l'association Kouviessou a été élu dans ce projet comme un groupement pépiniériste.
Le préfet de l'IFU, Dike Claude Raymond, a félicité l'association Kouviessou pour son engagement envers l'environnement et a souhaité voir d'autres associations suivre ce bel exemple.
C'est leur travail qui est le résultat de ce don. Moi, je voudrais qu'on puisse en faire un large écho auprès de nos populations.
Le FIDAC bénéficie de l'appui financier de la Banque africaine de développement. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
À l'international, au Niger, 22 personnes ont été assassinées dimanche 28 janvier dans le village de Motogata, situé dans la région de Tillaberi, près de la frontière avec le Mali. Selon un élu local, les assaillants, des djihadistes présumés, sont arrivés en milieu d'après-midi sur une vingtaine de motos et ont commencé à tirer dans la foule. Des miliciens d'autodéfense font partie des victimes. Annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, la Communauté économique et de développement de l'Afrique de l'Ouest, les populations de ces pays membres de l'organisation dénommée Alliance des États du Sahel réagissent tant bien que mal à cette nouvelle. Écoutons à ce propos les avis et réactions de trois citoyens de ces pays, joints par Jean-Claude Comé.
Bernard Bougma, journaliste à Ouagadougou. On y est depuis 49 ans, et si on sort comme ça, alors qu'il y a des implications, ce n'est pas aussi évident. Du reste, ils sont toujours membres de l'espace Lyomoa, qui est l'espace économique par excellence. Donc déjà, sur le plan commercial, il y a des avantages qu'ils conservent, parce qu'ils partagent la monnaie commune, la libre circulation des biens, les avantages sur le plan douanier, sur le plan fiscal, ils bénéficient de ces avantages de l'espace Lyomoa. Ce n'a rien à voir avec les avantages de l'espace CEDEAO.
Alors, mais les populations, elles réagissent comment?
Les populations sont partagées entre doute, crainte, espoir. Parce que pour quelqu'un qui se rendait librement en Côte d'Ivoire, est-ce que compte tenu du fait qu'on n'est plus dans la zone CEDEAO, il nous faudra un visa ou pas? Quel va être le sort de ces différentes nationalités de ces pays qui sont installés en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin?
Docteur Traoré Abdoulaye, je suis médecin, résident à Niamey. Les grands ensembles, aujourd'hui, on en a besoin. Mais la réalité étant la réalité, comme on dit, quand quelqu'un qui a faim n'a pas le temps d'attendre que la marmite descende du feu. Donc aujourd'hui, le comportement de la CEDEAO a mis les peuples du Niger, du Mali, du Burkina à dos. Parce qu'apparemment, on oublie en fait le vécu quotidien des citoyens. Et malheureusement, on dit la nature a horreur du vide. Quand vous êtes perché là-bas et que vous décidez du sort des nations sans tenir compte des vrais problèmes des nations, eh bien, on tombe toujours dans des situations comme ça.
Bruno Dito, ce midi, directeur de publication du journal Mali Horizon. Ce qui est dans les consciences ici, dans l'opinion, c'est que on ne pourra pas s'affirmer pleinement comme Malien en restant sous ordre. Et donc, les populations pourraient mesurer que ça pourrait être grave, ces sanctions, éventuellement, mais se dire, s'encourager à supporter le défi et advienne que pourra.
C'était donc les réactions des citoyens du Mali, du Burkina Faso et du Niger suite à l'annonce du retrait de ces pays de la CEDEAO. À présent, place à la revue des titres de la presse ivoirienne. Et c'est avec Aoussi Potin qui nous a rejoint. Bonjour Potin.
Bonjour à vous Christelle, bonjour à toutes et à tous. Je me rends compte que votre voix ce matin est tonitruante Christelle. Sûrement des éclats de joie hier suite à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire.
Oui, je ne vais pas le nier, on a tous sauté de joie face à la qualification des éléphants.
Alors très bien, les journaux aussi on va dire ce matin ont sauté et sautent de joie dans leur titre de une. Nous avons donc affaire à une presse ivoirienne très élogieuse à l'endroit de son équipe nationale. Ça va donc... Les éléphants de Côte d'Ivoire après son succès sur les lions de la Teranga ou encore du Sénégal hier dans le cadre donc des huitièmes de finale de la CAN 2023. D'une exclamation à l'autre, les titres de nos confrères de la presse écrite sont des plus élogieux à l'endroit des pachydermes ivoiriens. D'abord, les titres qui mettent en avant le caractère héroïque de la victoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le temps héroïque éléphant, le nouveau réveil héroïque, les éléphants terrassent les lions, le matin héroïque et fantastique éléphants. Et puis nous avons aussi le rassemblement, les éléphants valident leur résurrection, désillusion totale chez les lions. Avec ce titre donc du quotidien Le Rassemblement, savoir les éléphants valident leur résurrection, eh bien nous rentrons dans le registre de cette image de ressuscité transfigurée ou encore transformée par la suite. Il y a donc aussi le quotidien La Voix Originale qui va embrayer dans le même sens à sa une que Le Rassemblement avec son titre suivant. Les éléphants éliminent les Sénégalais. Enfin, le grand réveil des revenants. Toujours donc au titre des revenants, il y a aussi le mandat qui dit ceci à sa une. Des éléphants transformés brisent le rêve du Sénégal. Alors, une résurrection en griffe des éléphants qui réjouit aussi toute la nation ivoirienne avec le titre du Patriote CAN 2023. La Côte d'Ivoire élimine le Sénégal. Éléphantesque, explosion de joie à travers le pays. Et donc les éléphants qui s'offrent ainsi, on va dire, le scalp du champion en titre. Et c'est donc le titre de Génération Nouvelle, totalement métamorphosé. les éléphants s'offrent le champion en titre. Et face donc à une telle victoire, il y a d'abord le Jou Plus qui va nous donner un peu une image hein, donc d'adversaires qui vont passer à la trappe les uns à la suite des autres avec son titre donc suivant, le Jou Plus. Les éléphants brisent le rêve des Sénégalais au suivant donc. Alors face à une telle victoire, Christelle, inattendue mais espérée par tout un peuple, que dire à cette équipe de Côte d'Ivoire selon vous?
Félicitations.
D'accord, c'est pas mauvais, mais on va prendre le titre de une de notre voix qui nous donne le mot le mieux approprié, qui va dans le même registre que le vote, savoir donc tout simplement merci à lire donc à la une de notre voix de ce matin.
Voilà, merci à vous, Aoussi Potin, pour la revue des titres de nos journaux qui était entièrement consacrée à la qualification des éléphants.
Tout à fait.
Voilà, une revue qu'on pourra retrouver dans l'édition de 8 heures. Et nous en arrivons à l'invité de la rédaction. Ce matin, nous recevons professeur Geoffroy-Julien Kouao, juriste et politologue. Il intervient sur la question du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est interrogé à cet effet par Junior Cardin.
Geoffroy-Julien Kouao, bonjour.
Bonjour, Junior Cardin.
Professeur, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'Association des États du Sahel, décident de se retirer de la CEDEAO. Comment expliquer cette annonce?
Évidemment, ce n'est pas une surprise. En ce sens que, depuis 2020, les relations entre Niamey, Ouagadougou, Bamako et la CEDEAO ne sont pas au beau fixe. Et on s'attendait plus ou moins à un retrait de ces trois États de l'organisation sous-régionale.
Quelle est la légitimité des autorités qui ont pris cette décision?
Les autorités burkinabées, maliennes et nigériennes sont les autorités de leur État. Le communiqué a été signé par le capitaine Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Goïta, chef de l'État du Mali, et le général Tchani, chef de l'État du Niger. Et le chef de l'État est la première personnalité habilitée à exercer le droit de légation, c'est-à-dire le droit de nouer des relations extérieures avec les autres puissances étrangères. Et dans l'espèce, on peut donc dire que ces autorités agissent selon le droit national et international.
Et malgré leur statut de militaire parvenu au pouvoir par coup d'État?
Oui, mais la cession au pouvoir par coup d'État ne pose pas le problème de légitimité. La légitimité, c'est ce qui est conforme à la volonté populaire. Vous savez, les coups d'État, il y en a eu énormément. Quand vous prenez par exemple le cas de la France en 58, le général de Gaulle est revenu au pouvoir par un coup d'État. Ça n'a pas empêché le général de Gaulle de mettre en place les institutions de la 5e République. On peut donc remettre en cause la légitimité de la constitution du 4 octobre 1958 qui aujourd'hui sert de référence à toutes les constitutions pour les États de l'Afrique francophone. Maintenant, à partir du moment où ces autorités sont les chefs d'État de leur pays, elles ont donc le droit de représenter valablement ce pays.
D'accord, donc aucun problème de légalité ne s'oppose.
Je ne le pense pas. En ce sens qu'il appartient à chaque État de désigner ses représentants. Il n'appartient pas ni à l'ONU, ni à l'UA, ni à la CEDEAO qui ne sont pas doté de souveraineté, de désigner qui peut être le représentant d'un État membre.
Mais professeur Geoffroy-Julien Kouao, quelles sont les conséquences juridiques et même diplomatiques de ce retrait?
Ce retrait a été fait avec effet immédiat, selon le communiqué, ce qui viole l'article 91 du statut de la CEDEAO, qui stipule simplement que lorsque un État veut se retirer, il doit déposer un préavis dans un délai de un an. Mais là, c'est lorsque la séparation se fait à l'amiable. Alors que, au regard du communiqué conjoint des trois États, nous sommes là face à un divorce pour faute.
Au sein de la CEDEAO, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Avec ce qui arrive, est-ce que les ressortissants de ces trois pays pourront bénéficier de cette situation?
À partir du moment où ces trois pays ne font plus partie de la CEDEAO, ils ne bénéficient plus des avantages rattachés à l'appartenance d'un État à la CEDEAO. N'empêche que dans le cadre bilatéral, ces États peuvent signer des accords avec chacun des autres États membres relativement à la libre circulation des différentes populations.
Et puis avant ces trois pays, il y a eu le cas de la Mauritanie. Comment le cas de la Mauritanie a pu être géré pour qu'aujourd'hui on en soit au retrait de trois autres? Ça évolue.
Oui, vous avez totalement raison de rappeler la jurisprudence mauritanienne. C'était en 2000. Heureusement, le divorce s'est fait à l'amiable. Nouakchott s'est senti plus proche de l'Afrique du Nord que de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui n'est pas le cas ici du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui vont sous fond de crise avec la CEDEAO.
Mais selon la commission de la CEDEAO, elle dit même être déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique dans laquelle se trouvent ces trois pays. Mais avec la nouvelle donne, on pourrait s'interroger.
Oui, mais la CEDEAO adopte la meilleure posture parce que ce n'est pas toujours intéressant pour une organisation internationale de voir les États membres partir. Et je pense que la CEDEAO privilégie la diplomatie et c'est ce qu'il fallait faire au début.
Et après le retrait de la CEDEAO, est-ce qu'un éventuel retrait de l'UEMOA ne serait pas en ligne de mire pour créer certainement leur propre monnaie, ces trois pays?
Il faut dire que ces trois pays sont dans une nouvelle dynamique géopolitique. D'abord, ils ont mis en place une alliance des États du Sahel et ils prennent des positions politiques conjointes relativement aux relations extérieures. Et donc là, on assiste à la naissance d'une nouvelle organisation internationale dans la sous-région. Il est évident que la question de la monnaie est étudiée au niveau de l'AES et que certainement la prochaine étape serait, selon toute vraisemblance, le départ de l'UEMOA. Mais je pense qu'il faudrait pour les uns et les autres avoir raison gardée et activer la diplomatie parce que la grande perdante du retrait de ces trois États, c'est surtout l'intégration sous-régionale, voire l'intégration africaine. C'est donc un véritable coup de marteau.
Professeur Geoffroy Julien Kouaou, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction de ce jour, professeur Geoffroy Julien Kouaou, juriste et politologue, qui intervenait sur la question du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la CEDEAO. Et c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. À présent, le rappel des titres. Coup d'éclat pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire élimine le Sénégal tenant du titre et se qualifie pour les quarts de finale. Le COCAN appelle à cet effet au fair play avant, pendant et après les matchs. À Boaké, la Drena 2 de la ville bénéficie d'un renforcement de capacité sur la gestion administrative des centres d'alphabétisation. Et à l'international, au Niger, 22 civils tués dans une attaque contre un village dans la région de Tillabéri. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h pour une nouvelle édition. Mais avant, retrouvez tout de suite votre magazine au cœur de la CAN.
Au cœur de la CAN, toutes les infos sur le déroulement de la 34e Coupe d'Afrique des Nations avec nos envoyés spéciaux.